Ils ont été avec moi quand je me suis cassé le bras pour le faire reconnaître en accident.
Oui, j'entendais rien.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur le créneau brut de la radiographie, tous les vendredis de 13h à 14h. Alors, l'asso brut, c'est quoi? C'est le média officieux de l'UTC, donc on réalise des petites vidéos et on occupe ce petit créneau de 13h à 14h le vendredi pour vous régaler à base de petites chroniques, de petits invités sympas. Parfois de petites chroniques, hein, pas tout le temps, c'est peut-être la petite surprise. Cette semaine, on reçoit Vincent Lemerle. Bonjour Vincent.
Bonjour à tous.
Il nous parlera de thématiques énergétiques, puisqu'il a quelques projets de sensibilisation. On en parlera plus tard avec lui. On parlera de tout ça avec Rodolphe Holsemer, mon co-chroniqueur de cette semaine.
Salut Oran, bienvenue à tous pour cette nouvelle émission Bruit et cette chronique.
Vous le voyez pas, mais qu'est-ce qu'il est beau, Rodolphe. Qu'est-ce qu'il est beau. Et donc, la dernière arrivée, sa première radio. Bravo Chloé, on applaudit Chloé pour sa première radio.
Merci.
Qui nous fera une petite chronique, la belle chatoyante Chloé nous fera une petite chronique intitulée La douche. Assez mystérieux, on veut découvrir ça, on a envie d'en savoir plus. Donc voilà, vous êtes prévenus, vous êtes prêts pour cette magnifique émission d'une heure avec nous. Chloé, je te laisse la parole.
D'accord, donc c'est donc un poème que j'ai écrit dans le cadre de la formation Fleur d'éloquence. C'était un énième soir de confinement, de couvre-feu, d'isolement, ou bien même encore de quarantaine. Peut-être un soir normal finalement. Je ne sais plus très bien tant il s'enchaîne. Et pour laver cette peine, fuir un instant cet enfermement, cette condition d'étudiant, et au passage penser à mon hygiène, je décide de me diriger lentement vers cet équipement qu'on appelle la douche. Ah, la douche, place à la chaleur bouillonnante et à l'ivresse dégourdissante et relaxante d'une bonne douche chaude. Mais soudain, un souvenir me revient. Et la douche à laquelle je pense à cet instant vient trancher avec ce moment un peu ennuyant. Le dôme de ma cabine de douche est devenu celui du zicodrome. Et là, je me demande quel est donc ce symptôme qui m'a déplorablement fait oublier cette soirée. Est-ce l'alcool ou simplement le temps écoulé? La douche! Ah, mais quelle douche mémorable! Une bière fraîchement tirée, renversée ou plutôt déversée en un battement de cils sur l'entièreté de la chevelure de ma douce amie Cécile. 33 centilitres furent apportés par une main inconnue et suffirent à la tremper intégralement. La levure, c'est bon pour les cheveux, la réconfortions-nous. Génial! S'écria-t-elle, prenant cette main venue du ciel comme un délicieux masque démêlant cheveux, senteur, vanille-miel. Avec ce drôle et mémorable souvenir, me reviennent des odeurs de levures oubliées, celles de la foule qui transpire, le goût amer de la bière ambrée, de la bière ambrée, celui sucré de l'aromatisé aux fruits rouges, le bruit de la cartétue scannée par les cats, de la mécanique des tireuses, de la rythmique des chanteuses, l'obscurité éclairée des projecteurs et les pas des danseurs amateurs. Puis plus d'eau chaude, c'est la douche froide, et je reviens à la réalité de façon brutale.
Petit applaudissement. Magnifique. Merci
très
beaucoup.
Très inspirant, Chloé.
Très rafraîchissant. Beaucoup aimé.
On a adoré même. Alors dans quel cadre, donc, du coup, tu disais, t'as composé ce poème?
Dans le cadre de la formation Fleur d'éloquence.
Ok. Donc t'as le premier tour quand exactement? Comment ça va se passer?
Ça se passe... c'est des vidéos à enregistrer et que t'envoies du coup... sur le site.
Ok, bah on fera peut-être une petite émission là-dessus plus tard et tu viendras nous parler peut-être de ton projet de Fleur d'éloquence.
Avec plaisir.
Donc maintenant on va écouter une petite musique et après on reviendra pour l'interview de ce magnifique Vincent Lemerle. Il nous parlera un peu parce que c'est lui qui a choisi la musique de pourquoi cette musique. A tout à l'heure. Ok, petit souci technique, on pourra pas passer la musique.
peut-être que Vincent peut nous la chanter.
Vincent chante la
Jimmy Bois du
Ok, beaucoup de soucis techniques sur cette émission. Vous avez un présentateur qui ne sait pas manier un ordinateur, donc.
On est nouveau dans le métier.
On est nouveau dans le métier, c'est pas grave. Donc Vincent, déjà, est-ce que tu peux me dire pourquoi la balade de Jim et après on passera aux questions d'abord.
Donc balade de Jim, un très beau titre dans la Sochon. Donc Alain Sochon, un des plus grands interprètes français et compositeurs. Pourquoi cette musique? Parce que cette musique est tragique, cette musique est si belle. Je sais pas si vous l'avez écoutée autour de cette table, mais elle procure des émotions très fortes. C'est l'histoire d'un homme, qui ne se sent pas bien dans son couple. Qui se fait larguer par sa copine et qui part avec sa Chrysler.
Ouais, on est
qui
bien
boit trop, qui boit trop.
Il va nous raconter la chanson, les gars.
C'est et le pauvre a un accident, il est si malheureux.
Donc quand vous avez des soucis techniques de chanson, appelez Vincent, il vous contera la musique de façon très poétique. Donc
je me retrouve dans ce personnage un peu. Et c'est pour ça que je l'aime tant.
Ok.
Est-ce merci. Que c'est une musique qui peut te faire pleurer, Vincent?
Je suis pas quelqu'un qui va beaucoup pleurer dans la vie de tous les jours, mais elle va me procurer oui des émotions très fortes. Quand je me sens un peu nostalgique ou je me sens un peu triste, ouais, j'écoute ça le soir dans mon lit, seul le soir.
Pour l'avoir chanté également, ça me je vois ce que tu veux dire.
Est-ce qu'on ferait une émission sur la balade de Jim? Allez, c'est parti. On oublie la thématique énergétique peu importante finalement. Ok, donc moi la première question que j'ai à te poser, Vincent. Donc t'es un passionné, toi, par les questions environnementales. Est-ce que tu peux d'abord nous en dire plus sur tes activités de sensibilisation? Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu fais? Comment? Pourquoi? Vas-y.
Alors, en 2019, j'ai eu un petit déclic. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de temps libre. Et donc, j'ai utilisé ce temps pour lire énormément donc de rapports qui étaient liés à l'environnement, au climat. Et j'en ai fait des synthèses. Et je me suis dit, ça serait pas mal de présenter ces synthèses à des lycéens. Donc j'ai monté une petite équipe d'intervenants. Donc c'était surtout des amis à moi qui m'ont suivi dans ce beau projet. Et en automne 2019, on a contacté des lycées et on a commencé à intervenir au lycée Pierre Dailly à Compiègne. Et on a réalisé donc 28 heures d'intervention avec les 14 classes de terminale de ce lycée. Donc ça faisait 2 heures d'intervention par classe. Et on abordait en gros notre problématique, c'était comment à notre échelle on peut, en modifiant notre manière de consommer, réduire nos émissions de CO2.
Ok, et qu'est-ce que tu as produit du coup, quoi, comme contenu? Il me semble que tu as fait pas mal de recherches, tu as fait même un dossier là-dessus.
Ouais, donc on a écrit plusieurs exposés, moi j'ai écrit pas mal de papiers par-ci par-là. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je commence à présenter ces papiers à mes amis, du coup, sur mon compte Instagram. Donc c'est des espèces de petites stories assez courtes, de 10 pages, de 10 slides. Où je parle de sujets comme l'énergie, le climat, le nucléaire, les énergies renouvelables, etc.
D'accord, donc qu'est-ce que tu prévois de faire donc, avec ce compte Instagram? Tu prévois de le pérenniser ou c'est juste un one shot? C'est juste, comme
c'est
ça
juste pour embêter mes potes. Et,
On n'aime pas les lire, c'est trop long.
je passe beaucoup de temps à leur parler de ça, ça les intéresse peu. Donc je vais arrêter de les embêter avec ça et j'exprime juste ce que j'ai à dire sur mon compte Instagram. Et si ça les intéresse, ils le lisent. S'ils les intéressent pas, bah...
Tu vas donc empêter 10 000 personnes maintenant.
10 000.
C'est à peu près.
À peu près 50.
qui lit combien de...
J'ai quand même pas mal de retours de... Bah du coup, surtout des UTC1. Hein. Ok. Des potes à moi de l'UTC.
Donc l'UTC, donc là on tourne à l'UTC actuellement, ouais, donc l'Université Technologique de Compiègne.
Mais globalement, je pense que c'est pas quelque chose de grand. C'est plus pour moi, c'est plus pour synthétiser ma pensée, pour savoir... pour mettre en ordre dans ma pensée et... Oui, je pense au grand max, il y a une cinquantaine de personnes qui lisent ça, mais c'est pas le but.
Tu veux pas avoir un but de grande sensibilisation?
Bah, à mon niveau, je pense pas pouvoir développer ce compte Instagram. Je veux dire, j'ai pas non plus un temps fou à mettre là-dedans. C'est plus quelque chose qui me fait plaisir et ça engage des conversations avec deux, trois potes à moi, et donc je trouve ça intéressant.
Mais d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses, toi, donc, de la sensibilisation qu'il y a aujourd'hui des énergies nucléaires? Je te pose cette question parce que, pour en avoir discuté beaucoup avec toi déjà de base,
ouais.
Toi, tu me dis qu'on est désinformé finalement sur le sujet. Donc, qu'est-ce que tu en penses et pourquoi, justement, toi, tu ne veux pas partir sur un projet de sensibilisation à plus grande échelle?
Tu me parles par rapport au climat?
Par rapport au climat et aux énergies renouvelables plutôt, tu vois.
Ok, aujourd'hui, sur le climat, quel est l'objectif? Il faut du coup atteindre une neutralité carbone à l'échelle 2050.
D'accord.
Faut réduire de 4% nos émissions chaque année environ, donc au niveau mondial, pour en gros éviter de passer au-dessus de la barre des 2 degrés, donc annoncée par le GIEC. Donc qu'est-ce qui se passe? Faut qu'on trouve aujourd'hui des manières pour arrêter de consommer des ressources fossiles, en grande partie. Donc les ressources fossiles, c'est 65% de ces émissions-là. Il faut arrêter de faire de la déforestation. Et il faut réduire, en gros, tout ce qui est chaptel bovin pour réduire...
Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est une chaptel bovin?
Ben, n'oublie pas. Le nombre de vaches.
Je crois qu'il voulait dire cheptel.
Tu vas être repris par Rodolphe l'agriculteur.
Exactement.
En fait, on ne reçoit pas Rodolphe le chroniqueur, mais l'agriculteur.
Exactement. Je suis complémentaire
de Moselle,
avec... De Meuse.
Donc cheptel, mes excuses, j'ai pas pris, pour réduire notamment les émissions de méthane. Donc, c'était quoi la question? Je commençais à partir dans une explication.
Non, donc, on te connaît.
Donc là, voilà, la question, c'est comment faut faire?
Déjà, comment comment en France, on est sensibilisé à ça? Et comment, comment on peut améliorer ça, nous, et comment on peut faire mieux, tu vois?
Donc, globalement, le sujet en France, c'est centralisé sur une question qui n'est pas du tout liée aux émissions de gaz à effet de serre, qui est surtout le débat nucléaire vs énergie renouvelable. Donc, il faut quand même rappeler aujourd'hui que ce débat n'est pas du tout lié au climat, parce que mettre aujourd'hui des panneaux solaires et des éoliennes à la place du nucléaire ne permet pas de réduire les émissions d'un gramme.
Tu peux pas dire non plus que c'est pas relié au climat, c'est à but d'améliorer la situation climatique aujourd'hui. Mais même si c'est... pas zéro. Du tout. Ok, d'accord. Explique-nous ça pourquoi. Là.
En gros, tu as une notion qu'on appelle l'intensité carbone. Donc ça, qu'est-ce que ça raconte? Ça nous dit, tu vas produire une unité d'énergie, donc une unité d'énergie électrique, combien tu vas émettre de CO2? En prenant en compte la fabrication de ton produit, donc l'extraction des combustibles, le béton que tu vas utiliser pour construire tes centrales, les métaux que tu vas utiliser pour construire tes panneaux solaires, donc tout ce que tu veux. Ça prend en compte la phase d'utilisation. Donc quand tu utilises tes panneaux solaires et tes éoliennes et tes centrales nucléaires, ça émet zéro CO2. Et ensuite, il y a le traitement et la fin de vie du coup de tes éoliennes et tes panneaux solaires et tes centrales nucléaires. Donc aujourd'hui, une centrale nucléaire, c'est entre 6 et 10 grammes de CO2 par kilowattheure d'électricité produite.
D'accord.
Une éolienne... Aujourd'hui, on est autour de 10-20 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Pour un panneau solaire, on est autour de 50 à 60 grammes. Donc ça veut dire, si tu me remplaces ma centrale nucléaire par plein de panneaux solaires, tu multiplies fois 5 tes émissions de gaz à effet de serre. Parce que tes panneaux solaires sont en grande partie produits en Chine. Et donc ont une empreinte carbone très très forte, puisque l'électricité chinoise et les procédés chinois qui produisent ces panneaux solaires sont très polluants et consomment par exemple énormément de charbon. Donc c'est ça la situation actuelle en France aujourd'hui. Dans le monde, c'est différent. Dans le monde, c'est différent parce que l'électricité est largement produite à partir de charbon et de gaz. Donc si tu remplaces le charbon et le gaz par des panneaux solaires et des éoliennes, oui, là, tu réduis tes émissions. Mais en France, ce n'est pas le cas.
Moi, j'ai deux questions à te poser quand même. La première, c'est tout simplement sur l'image du nucléaire. Est-ce que toi, tu sais comment... aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en France, peut-être Rodolphe ou Chloé nous diront l'inverse, mais en France, tu as quand même une image très très mauvaise en général du nucléaire. Parce qu'on a construit ça, je ne sais pas qui ou quoi a construit ça, justement c'est pour ça que je te demande comment ça a été construit, pourquoi ça a été construit, si tu as une réponse, et comment on peut démolir ça, quoi.
En gros, tu as eu des gros plans de construction centrale dans les années 70. Ça a été notamment propulsé par les chocs pétroliers des années 70 qui ont fait un peu peur aux pays européens qui ont des ressources, du coup surtout la France qui n'a pas de ressources en gaz et en ressources fossiles pour produire de l'électricité. Donc on a mis en place ce programme dans les années 70. On a construit... entre 70 et les années 2000, 58 réacteurs qui sont aujourd'hui en fonctionnement. La fin de ta question, donc ça c'était sur le programme nucléaire français.
La fin de ma question, c'est comment...
qu'on en a ?
Oui, surtout moi, je veux que tu parles de cette image-là, en fait.
Donc aujourd'hui, l'image du nucléaire, elle est très mal comprise.
Tout simplement, la cheminée plein de fumée. Non,
voilà,
c'est
je considère ça. Je pense que le nucléaire, c'est du coup une technique qui est peu connue, parce qu'il faut quand même avoir des bases en atomes, savoir ce que c'est un atome, une molécule, savoir ce que c'est une réaction nucléaire, donc la fission d'un atome d'uranium, par exemple, c'est pas évident. Mais donc c'est des choses qui sont un peu mystérieuses. Donc peut-être que les Français ont du mal à appréhender ça. Aujourd'hui, il y a quand même un gros problème. Donc il y a beaucoup d'études qui sortent là-dessus chaque année qui questionnent les Français sur le nucléaire. Et il y a plus de la moitié des Français qui pensent que le nucléaire est à l'origine d'émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est une réalité.
Toi, tu donnes le nucléaire à zéro origine des gaz à effet de serre.
C'est plus que négligeable. Du coup, comme je t'ai dit, c'est 6 grammes de CO2 par unité d'énergie d'électricité produite.
On peut dire
c'est peu. Le charbon, c'est entre 800 et 1000 grammes de CO2 par unité d'énergie produite. Le gaz, c'est 400. Donc c'est très très négligeable en fait. Il y a quoi? Il y a le béton que tu utilises pour construire ta centrale. C'est presque que ça. Et donc les Français n'ont pas compris l'intérêt du nucléaire par rapport à son rôle pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, bah, comme je t'ai dit, quand on parle de nucléaire, les gens pensent en grande partie que les fumées blanches. Bah, là-dedans, il y a des gaz qui bah, du coup, vont agir,
produire des méchants gaz. Donc,
les grosses fumées que vous voyez qui sortent des réacteurs nucléaires, c'est de l'eau.
On n'a pas dit nerf.
C'est vraiment que de l'eau. C'est des molécules d'H2O, aussi simple que ça. Et cette eau-là n'est pas du tout en contact avec le matériel radioactif, donc il y a zéro émission radioactive qui vient de là. En fait, c'est juste pour refroidir le circuit qui va produire de l'électricité. Mais c'est que de l'eau.
Alors,
ça, tu penses que tout le monde le sait pas ?
Et ça, tout le monde le sait pas. Donc moi, ce que je me suis amusé à faire dans mes écoles, du coup, dans les écoles dans lesquelles je suis allé pour faire des interventions, à chaque fois, je posais cette question.
Et
la
gens
fumée
pas.
Et la moitié des gens ne savaient pas.
Et les gens pensaient que c'était des déchets radioactifs ?
Les gens pensaient, bah, ils savaient pas. Ils se disaient, bah, c'est des gaz, donc je sais pas, ouais. Ouais, donc ça doit être des gaz à effet de serre. C'était globalement ça la réponse.
Mais t'as tout un espèce de soft power, je sais pas comment l'appeler, tu sais, genre à base de Simpson, de trucs comme ça, en fait, ouais. Où tu vois des énormes mecs en combinaison aller chercher des déchets radioactifs et pas bien. Tu vois des
ouais, c'est vrai que dans les Simpsons, bon déjà, tu vois un truc vert qui fout de partout. Je vous Simpson, montre, je montre des pastilles d'uranium. Tu me dis, mais c'est du métal, en fait. Ouais, c'est pas du tout vert.
Mais est-ce que tu penses pas, j'aimerais revenir sur ce que tu dis un petit peu, cette mystification du nucléaire en France. Est-ce que tu ne penses pas que cette diabolisation du nucléaire dans notre pays serait liée aux différents accidents qu'il y a eu au cours des 30-40 dernières années, donc bon, Tchernobyl, plus récemment Fukushima,
ouais.
Mais également à la question des déchets.
Ouais.
Puisque là, tu ne soulèves pas la question des déchets, puisque le nucléaire produit des déchets, et ces déchets, on ne sait pas quoi en faire pour le moment, et la seule solution qu'on a, c'est de les stocker.
Et les stocker où chez toi ?
Les stocker d'ailleurs à Bure, Bure qui se situe chez moi.
Dans la Meuse.
Et je t'avoue qu'en tant que citoyen, je me pose des questions et naturellement, je n'ai pas toute confiance en Areva et en Framatome qui veut mettre des déchets nucléaires en dessous de ma maison. Alors voilà, qu'est-ce que j'aimerais avoir un petit peu ton point de vue sur
donc
cette
ça,
question.
C'est des
comment
questions
rassurer les
très
citoyens
complexes.
Tels que Rodolphe les de merde.
En fait, faut surtout, tu te poses la question sur le bénéfice-risque. Qu'est-ce que m'apporte le nucléaire et quels sont les risques du nucléaire ? Sur les risques, donc tu as raison, il y a eu des accidents. Aujourd'hui, il y en a eu deux très très importantes, Tchernobyl dans les années 80, 89, si je m'abuse, et Fukushima en 2011. Donc Tchernobyl, c'est un accident, ils ont fait des tests, ils n'ont pas géré, leur centrale était mal conçue, c'est parti en cacahuète.
Ils n'ont pas géré.
Ils n'ont pas géré.
Ils n'ont pas géré.
Tchernobyl, c'est, y a eu un tsunami, ils avaient prévu une digue qui protégeait d'une vague de 9 mètres, la vague a fait 14 mètres, la centrale a été abîmée, et donc gros problème. Fukushima, en conséquence sur les gens, donc ça pareil, il y a eu énormément de désinformation de la part des médias type Le Point, type France Inter, France Info, donc j'ai ça en tête. Fukushima, les conséquences du coup sanitaires, c'est zéro mort à cause des rayonnements ionisants, et il n'y en aura probablement pas du tout dans le futur, c'est même un probablement très très probablement.
Pourquoi dis ça ?
Parce que du coup, on a aujourd'hui des moyens très précis de savoir quelles sont les quantités du coup de rayonnements ionisants que reçoit une personne en France ou en... pardon, que reçoit une personne dans le monde, ok ? Donc après cet accident de Fukushima, on a fait énormément de relevés radioactifs et on a été capable de déterminer quels avaient été les rayonnements ionisants reçus par la population.
D'accord.
Toute proche de la centrale.
Donc en gros, du gros, pour un peu vulgariser le truc, les conséquences réelles des rayonnements de la centrale.
Donc en gros, il y a eu des émissions de particules radioactives qui ont émis du coup des rayonnements ionisants qui ont été reçus par la population.
D'accord.
Donc ça, les gens ont globalement très peur. Ils ont fui la zone de Fukushima.
Vous savez, c'est le truc dans les films où le mec est en sueur après. Il est tout rouge, il se liquéfie.
Et donc, dans la réalité, c'est pas ça. Et on a très bien montré que ces rayonnements qu'avait reçus la population, donc ils ont fait des prélèvements sur 200 000 personnes qui habitaient autour, avaient été très inférieurs à la dose minimale reçue pour augmenter d'1% le risque de développer un cancer dans sa vie. Ils ont fait des prélèvements, donc ils ont même regardé, ils ont fait des études sur plus d'un million d'enfants japonais pour regarder par leur thyroïde, et ils ont remarqué que non, il n'y avait pas eu plus de cancer de la thyroïde que s'il n'y avait pas eu.
Je vais te donner l'argument que
Japon.
Pardon, ouais. je te laisse pas finir, mais je vais te donner l'argument un peu que plein de gens donnent, c'est le truc où tu dis, où ils disent ouais mais vous avez pas vu tous ces reportages en Russie, en machin, en bidule, où en fait les gens qui vivent à côté d'usines nucléaires,
ouais, d'usines, de centrales,
d'usines ou de centrales, je sais plus,
c'est une bad Je pense centrale nucléaire. Là, on fait
de l'électricité. Je sais plus parce que non, mais peut-être que c'est l'endroit aussi où ils stockent les déchets. Et dans ce cas-là, ça rejoint l'argument de Rodolphe. Mais en tout cas, pour te dire un peu l'argument général que quelqu'un qui n'a pas fait d'études dedans peut te donner, c'est oui, mais le nombre de gens qu'on voit comme ça, où les enfants ont des becs dièvres, où les enfants sont handicapés, ouais. où tout le village est handicapé, etc.
Donc, qu'est-ce que t'en dis ? Un ordre de grandeur qui est très intéressant. Alors, tu manges une banane par mois, tu t'irradies plus qu'en vivant un an à côté d'une centrale nucléaire. Pourquoi ? Dans la banane, il y a du potassium. Donc, il y a un isotope radioactif. Donc, quand tu manges de la banane, tu t'irradies de l'intérieur.
Il faut arrêter les bananes, c'est pas écolo.
Ça, c'est un bon ordre de grandeur à retenir. Donc, c'est pour te dire, tu vis à côté d'une centrale nucléaire ou à côté d'un endroit où on stocke des déchets, les radiations que tu reçois sont négligeables. Ça n'a aucun impact, ça n'en aura jamais.
Tu peux affirmer ça avec une grande...
Oui, donc c'est ce qu'on appelle... Il y a une unité qui est très pratique qui s'appelle le millisievert. Et donc, il y a des radiation dose charts, donc des Bon, je sais pas comment en français ça, je suis bien, donc voilà.
On apprend à parler anglais à l'UTC.
Et donc, avec cette unité qui s'appelle le Silvert, on peut répondre à la deuxième question de Rodolphe qui était les déchets. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va creuser 500 mètres sous terre, on va y mettre des déchets. Et on étudie quelle va être, en gros, la vitesse à laquelle les particules radioactives vont remonter dans le sol. Donc, on les stocke très bien dans des matériaux du coup, qui ne laissent pas passer les radiations, sauf qu'au bout de quelques milliers d'années, ces matériaux s'abîment et commencent à laisser s'échapper quelques particules radioactives. Ces particules vont devoir remonter dans des couches d'argile, okay, et ces couches d'argile sont très perméables aux radiations. Donc, ils ont compté qu'il fallait plus de 50 000 ans pour que quelques particules radioactives arrivent à la surface, en prenant les pires scénarios.
Tu voulais dire imperméables ?
J'ai dit perméable ? Je voulais dire imperméable. L'argile est très imperméable. Et donc, ils ont montré qu'à une échelle de 50 000 ans, donc globalement, tu avais 0,00 risque. Après, à cette question de... Bon, imagine qu'il y a un pélo. On oublie qu'on a stocké des déchets là-bas.
Un monsieur sympatoche
qui a soif et qui décide de creuser un puits, tu vois.
Mais à 500 mètres de fond.
Non, mais creuse un puits dans l'eau et... Donc,
un puits dans l'eau ?
Un puits dans le sol, excusez-moi, pour trouver de l'eau. Et donc, ils ont fait des études là-dessus pour savoir ce qui allait se passer.
C'est compliqué.
Et pareil, c'est tellement faible, en fait, que sur l'humain, il y a zéro conséquence.
C'était, moi, j'ai envie que tu fasses attention à tes mots quand même. Zéro conséquence. Non,
risque
c'est pas
zéro
impossible.
N'existe pas. Donc, non, mais c'est des choses négligeables. Donc, faut quand même se rendre compte aujourd'hui que quand on parle de risques liés au nucléaire, il y a des risques industriels. Mais quelles sont les conséquences sur la santé humaine ? Elles sont plutôt très très faibles.
Parce que Rodolphe, toi, t'as une petite expérience agricole et donc tu vis dans des endroits comme ça où on stocke les déchets. Et qu'est-ce qu'en disent les habitants ? Qu'est-ce qu'en disent le local ?
On stocke pas de déchets actuellement.
Oui, je vois que tes analyses scientifiques ne souffrent d'aucune contraddiction.
C'est le point de l'émission, les gars.
L'IRSN, donc qui est l'Institut de Radioprotection Française.
Il semble que ce soit viable à long terme et je pense que. Enfin, personnellement, je suis de ton opinion. Je pense que le nucléaire réglerait bien des problèmes en France. Mais je pense quand même qu'il faut prendre ça toujours avec des pincettes. C'est une technologie qui, bien sûr, aujourd'hui, on la maîtrise, mais qui, bien sûr, ne présente pas aucun danger. On voit bien aujourd'hui que malgré toute notre maîtrise, toute notre technologie, nous ne sommes pas à l'abri du risque zéro. Et là, je pense aussi que la question qui se pose aujourd'hui et qui, quelque part, est légitime d'être posée, c'est qu'est-ce qu'on veut léguer aux générations futures ? Puisque, je suis bien d'accord avec toi, pendant quelques milliers d'années, il ne risque pas d'y avoir problème. C'est censé être des couches d'argile extrêmement stables et imperméables aux radiations. Mais on ne sait pas ce qui peut se passer au-delà d'une certaine période de temps. Et
à l'échelle de quand même 200 000 années ce qui peut se passer.
On laisse quand même aux générations futures, sur le long terme, ou peut-être même, je ne sais pas, moi, imaginons à une autre espèce, un problème, on leur laisse un problème sur les bras, pour notre génération. Et je pense que cette question-là se pose également de quelle empreinte on veut laisser sur la Terre.
Parce que, juste pour avoir une idée, les déchets radioactifs qui sortent des centrales, ils vont prendre combien de temps à être, on va dire, ingérés et décomposés par la Terre et transformés en une substance qui est plus du coup dangereuse pour nous ?
Donc, être décomposé, je ne serais pas capable de te répondre à ta question, mais tu as eu ce qu'on appelle la durée de vie. C'est quelque chose qui nous permet de savoir au bout de combien de temps il n'y aura plus d'émissions de particules radioactives à partir de ces déchets-là. Donc là, je n'ai pas les ordres de grandeur en tête, donc je ne vais pas pouvoir te répondre. Mais en termes de ce qu'on lègue à nos enfants, si j'en ai, ce qu'on lègue à,
c'est mal barré
au
pour
futur
toi.
De notre génération.
Je vais partir pleurer
dans
sa Chrysler.
Bravo, et la petite rêve, et la petite rêve de Chloé.
D'ailleurs, si je peux me permettre, breaking news, je viens d'apprendre que des élus en Meuse ont refusé le projet de l'Andra. Qu'une procédure judiciaire avait été engagée contre l'Andra pour tentative distribution de pots de vin auprès des élus.
Ah, bah, j'en avais aucune idée.
Voilà, ça vient de sortir. C'est un article.
Donne-nous un peu, parce que c'est relié à l'émission ou pas, ou
Exactement. C'est un article du Meusien qui
donc,
relate
c'est,
ça.
Qui est l'Andra,
L'Andra, alors l'Andra, c'est l'organisme en fait qui gère. La gestion des déchets à Bure, des déchets nucléaires à Bure, et ils viennent d'être mis en justice pour tentative de...
Pour rectifier un peu, il n'y a pas de déchets à Bure actuellement. Les déchets sont sous-stockés en Normandie, dans une usine à La Hague, donc il n'y a pas de déchets là-bas. Pour parler de ce qu'on lègue à nos enfants, donc je vous l'accorde, les déchets nucléaires, on lègue ça à nos enfants. Aujourd'hui, en termes de volume, qu'est-ce que ça représente? Vous prenez 10 piscines olympiques, vous mettez 1 mètre cube dedans, et voilà. Ce que j'essaye de montrer, c'est qu'on parle bouche-cou.
C'est quand même quelque chose.
C'est quand même quelque chose, mais tu prends l'échelle d'un pays, c'est que dalle.
Ouais.
En fait, tu mets ça 500 mètres sur Terre, c'est vraiment que dalle.
On a la diagonale du vide en France en soi.
Ce que j'ai envie de te dire.
Bah.
Voilà, la diagonale du vide où Rodolphe habite.
Oui, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'on parle beaucoup des déchets nucléaires, comme quoi on serait couvert de déchets nucléaires en France, que c'est un vrai problème, qu'on ne sait pas du tout quoi en faire. Il y a quand même d'autres déchets en France qui sont tout aussi problématiques. Pourtant, on ne va jamais autant en parler. Les déchets nucléaires en France, c'est 5 grammes. Donc les déchets qu'on va stocker sur le long terme, c'est 5 grammes par an et par personne. Tu prends tout ce qui est déchets dangereux, c'est 100 kilos. C'est 100 kilos, tu crois, on va en faire quoi? Tu crois que c'est 100 kilos, on va aller réussir à les... Non, ça va être stocké. Donc soit en surface, soit en sous-sol, ça va poser les mêmes problèmes. Les déchets dangereux, c'est des déchets que tu ne peux pas laisser à l'air libre, que tu es obligé de... Du coup, de mettre soit dans des conteneurs pour pas qu'ils soient pas en contact avec l'environnement.
Mais attends, mais c'est quoi? Enfin, tu peux donner un ou deux exemples?
De déchets dangereux, l'amiante par exemple. Donc ça, c'est un déchet dangereux. Et okay, t'as tout ce qui va être métaux lourds.
Quand tu dis déchets dangereux, c'est des déchets dangereux pour l'environnement et la santé.
Non, non, non.
Ah, okay.
Des déchets dangereux produits par l'industrie chimique, par agroalimentaire, etc. Donc tu vois les ordres de grandeur un peu.
Mais moi, je te
dis. 100 kilos, on va en faire quoi? Donc ça veut dire que si tu es contre le nucléaire à cause des déchets, tu devrais en gros être 100 fois plus impliqué. Mais bah non, du coup 100 grammes, non 100 kilos, 5 grammes, du coup ça fait...
C'est pas très grave.
Ça fait
100 fois plus,
tu peux dire 100 000.
C'est-à-dire que tu devrais être 100 000 fois plus concerné par les problèmes liés à l'industrie chimique. Tu vois l'ordre de grandeur? On a l'impression de crouler sous les déchets nucléaires en France, c'est faux. C'est que dalle. En termes de volume, c'est que dalle. Si aujourd'hui t'as un problème avec ce qu'on lègue à notre futur... Faut d'abord se poser des problèmes. Du coup, faut d'abord répondre à tous les problèmes liés à l'industrie chimique lourde, en fait. Donc c'est ça. Moi, en fait, je pense que le débat est ultra biaisé en France sur la génération nucléaire, que les gens sont pas forcément, ne comprennent pas forcément cette technologie, et que de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix.
Et si jamais, et si jamais les déchets étaient stockés, ok, sous terre, mais imagine. Il y a un tremblement de terre, il y a un volcan qui apparaît au milieu de l'endroit où il y avait un conteneur, et du coup ça explose dans l'air et on finit tous morts parce qu'on a plein de...
La Meuse est un pays très stable.
Comment tu réponds à cet argument, Vincent Le Maire?
Donc ils ont fait des études géologiques sur la technologie.
Ils vont pas les stocker en Californie.
Et donc c'est très stable.
Il n'y a pas de San Andreas en Meuse.
Ils sont capables de dire sur des centaines de milliers d'années, cette couche d'argile, elle va pas bouger.
Excuse-moi, vous êtes Zorok?
Et puis même si tu léchais ces déchets à l'air libre. En fait, il y a quand même un truc dans le monde qui s'appelle un réacteur nucléaire, donc c'est en Afrique, ça n'a jamais posé problème à personne. Hein. T'as aujourd'hui un centre dans le monde, du coup, qui est en Afrique, j'oublie le nom, qui est à l'air libre. Donc ça veut dire qu'il y a des émissions de particules à l'air libre, les gens l'évitent. Je veux dire, ça pose pas énormément de problème.
Donc,
Non mais je veux dire, c'est quand même des... Tu me parles d'un scénario catastrophe qui a 0% de chance d'arriver, et je te réponds que bah ouais, tu condamnes, tu condamnes 5 km carrés.
Donc, okay. On l'aura compris, le nucléaire en France ne pose pas un gros problème.
La diagonale du vide.
Cependant, on n'ira peut-être pas jusqu'à faire des brise-glaces nucléaires comme Maurice. Mais il y a quelque chose que j'aimerais beaucoup aborder avec toi, une thématique, parce qu'on l'aura compris selon tes propos. Le nucléaire, c'est également une question politique, plus que peut-être scientifique.
Moi je propose qu'on revienne sur cette thématique après une courte pause, parce que nos chers auditeurs, après 30 minutes de Vincent...
As-tu réglé le problème de la musique ?
J'ai réglé le problème de la musique.
On va mettre une petite musique.
On va pas voir... Attends, la fameuse balade, elle est là, elle est prête. Incroyable. Vous voulez qu'on la mette ?
Pleurons tous ensemble.
Et donc, on se retrouve dans 4 minutes et quelques pour se mettre la petite... pour parler, pardon, de politique et comment Vincent et sa super branche à l'UTC pourront aider à
voilà. Ce genre de problème. On se retrouve dans 5 minutes sur Bruit.
À tout à l'heure.
Thank you.
Et on est de retour sur la radio Graphite pour l'émission Bruit, donc de 13h à 14h. Rodolphe, donc avec Rodolphe Holzemer, notre chroniqueur. Chloé Dubois qui nous a fait une magnifique chronique tout à l'heure, merci encore Chloé. Et Vincent qui nous parle de thématiques environnementales et énergétiques depuis 30 minutes.
Et qui aime beaucoup trop le nucléaire.
On va parler beaucoup de nucléaire.
À chaque fois, vous avez raison, j'ai beaucoup dit zéro risque. Non, c'est faux, c'est des risques très très faibles. J'aurais dû le redire plus souvent, c'est pas zéro risque, le risque zéro n'existe pas. C'est des risques extrêmement faibles.
De toute façon, à la fin, si vous n'avez pas compris certaines choses que Vincent a dit, on vous donnera sa page Instagram pour que vous alliez vous abonner.
Ouais, je veux des likes.
Tu m'emportes des likes. Donc Rodolphe, tu avais une question par rapport à la politisation.
Bien sûr. Puisqu'en fait, on l'a parlé, on a beaucoup parlé de l'aspect scientifique autour du nucléaire et de... Voilà, de cette technique de production d'énergie et des risques que cela a engendré. Moi, j'aimerais un petit peu évoquer l'aspect politique, puisqu'on l'a vu, la politique a un rôle majeur aujourd'hui dans les politiques énergétiques en France.
Et l'aspect social aussi.
Et l'aspect social. Et voilà, j'aimerais un petit peu que tu nous parles un petit peu de ta vision, en fait, des politiques énergétiques en France, okay, qui, je le pense, si je ne m'abuse, divergent un petit peu de nos voisins européens.
Ça dépend sur quel sujet. Je pense que là où il y a le plus de clivage, c'est sur le sujet électricité. Mais quoique, il y a des pays qui vont dans notre sens. Donc vous prenez par exemple l'Angleterre aujourd'hui, ils construisent de nouvelles centrales et vont construire encore plus. Alors qu'à l'opposé, il y a l'Allemagne qui a décidé de tout fermer. Donc c'est, ou la Belgique plus récemment, qui a décidé de fermer toutes ses centrales. Donc aujourd'hui, il y a quand même plusieurs sujets où la France fait des choses intéressantes. Il y a une grande inertie, ça prend du temps, mais faut pas se voiler la face, la France agit quand même. Donc les sujets, la France agit correctement pour moi, même si elle pourrait en faire plus, c'est par exemple sur tout ce qui va être rénovation thermique des bâtiments. Il y a quand même pas mal d'aide au niveau d'un simple citoyen qui peut demander des aides pour changer ses fenêtres, renforcer son isolation, etc. On peut aussi parler des moyens de chauffage. Donc par exemple, il y a des aides aujourd'hui pour mettre des pompes à chaleur à la place de... J'adore les pompes à chaleur.
Alors pour vous donner un peu le contexte, Vincent, donc on doit chercher un stage pour septembre, et Vincent a demandé uniquement des stages en pompes à chaleur.
J'adore ça. Et donc, il y a donc ces fameuses aides de l'État pour mettre des pompes à chaleur à place de chaudières à gaz ou au fioul. Et enfin, il y a toutes ces aides pour les voitures électriques. Du coup, les OE, etc., on va... favoriser la reconversion de voitures très polluantes, donc des voitures surtout anciennes, pour des voitures soit moins polluantes, soit des voitures hybrides, soit des voitures électriques.
Pour revenir un peu sur le thème de la voiture qui concerne encore beaucoup de gens, est-ce qu'aujourd'hui il vaut mieux acheter une voiture électrique neuve ou en fait garder sa voiture plus polluante mais au moins qui n'a pas été reproduite, quoi. Donc,
aujourd'hui, on sait qu'à partir de 200 000 km, plutôt... Je vais reformuler, excusez-moi. Sur une durée de 20 ans d'utilisation, on estime qu'une voiture électrique type Zoé, du coup en comptant tout le cycle de vie, donc que ce soit même la fabrication de la batterie, le retraitement de la batterie, qui sont aujourd'hui très bien recyclés en France, qui sont bien recyclés et qui pourraient l'être encore mieux, et donc il y a une filière qui se met en place. Aujourd'hui, on est capable de dire qu'une voiture électrique produit 2 à 2,5 fois moins qu'une voiture thermique.
Environ. D'accord.
C'est ça l'ordre
de
grandeur.
Et par rapport à la production, moi, je voulais savoir. En fait, c'est le truc de dire...
Donc aujourd'hui, tu remplaces une vieille voiture très ancienne par une voiture électrique, oui, tu réduis l'empreinte carbone.
Ok.
D'accord, donc tu me conseilles de mettre à la casse ma vieille Saab pour acheter une Zoé, c'est ça?
Ta Saab qui conduit consomme combien au 100?
Ça n'arrivera pas.
En fait, c'est pas une question, c'est une question rhétorique.
Exactement.
Donc oui, si tu as une grosse voiture bien polluante, il est préférable de rouler avec une petite Zoé.
D'accord. Donc on va continuer à mettre des dos au climat pendant quelques centaines de milliers de kilomètres.
Je souhaite rajouter que ce chiffre de ça pollue à peu près deux fois moins qu'une voiture thermique, ce n'est que pour la France.
D'accord.
Dans les autres pays, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce qu'en France, on a une électricité qui est décarbonée à hauteur de 90%. Donc 70% nucléaire, 10% hydraulique, 7% éolien et 3% solaire. En gros, c'est à peu près
donc
ça.
Donc en grande majorité nucléaire, ce qui fait que ça nous avantage.
Voilà. Ce qui fait d'ailleurs que le coût de l'électricité en France est un des plus bas d'Europe, le nucléaire.
C'est une question trop complexe pour être évoquée ici, mais c'est pas en partie à cause de ça. Mais d'accord. Oui, t'as raison.
Mais non, mais je voulais juste dire qu'il y avait bien sûr un aspect économique derrière tout ça, et que bien que le retraitement des batteries, tout ça, cette filière existe, c'est quelque chose de très coûteux et qui aujourd'hui, du point de vue de l'industrie et des consommateurs, n'est pas rentable.
Ouais, donc aujourd'hui, bah, c'est subventionné, et sans subvention, oui, ce serait pas très intéressant.
Bon, j'aimerais te poser une question, te prendre en traître finalement, parce que tes opinions...
Non, c'est des faits scientifiquement prouvés.
Des faits scientifiquement prouvés, donc tes opinions sont assez une tendance générale actuelle. Mais tu as donc une opinion qui, je pense, ne va pas forcément aller dans le sens naturel des choses actuellement. Ouais. C'est-à-dire, donc, moi, je veux te parler, et je veux vous parler, en fait, en général, de politique environnementale. Et donc, en fait, de ce que font, par exemple, Europe Écologie Les Verts, de pourquoi... Est-ce qu'on devrait voter pour eux? Est-ce qu'on ne devrait pas? Enfin, est-ce qu'on ne devrait? C'est un grand mot, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi de temps en temps c'est une désinformation? Pourquoi c'est très politisé?
Moi, je tiens à préciser que chacun vote ce qu'il veut quand même.
Je vais essayer d'être moins radical que précédemment. Et en gros, de parler purement factuel et de ne pas dire mon opinion. Donc, purement factuel. Donc, aujourd'hui,
on est là pour savoir ce que tu penses.
Mais en plus, on est là pour savoir ce que tout le monde pense. Donc, moi, je veux vos avis aussi à Rodolphe et Chloé.
Donc, la politique d'Europe Écologie et Les Verts, actuellement, elle est quand même basée sur le fait de vouloir fermer nos centrales nucléaires au profit, du coup, de mettre de panneaux solaires et d'éolien. Donc, c'est ce qui est passé à Fessenheim.
Non, Fessenheim,
oui, Fessenheim, excuse-moi, j'ai un gros doute. Donc on a fermé la centrale en 2018, ouais.
Alors, s'ils veulent fermer les centrales nucléaires, je suppose que tu n'es pas pour eux.
Je ne parlerai pas de mes opinions, je dis juste que ils sont pour la fermeture des centrales.
Moi, ça ne me dérange pas que tu parles de tes opinions, mais en fait, tu nous expliques le pourquoi du comment, parce que c'est ça qui est intéressant. Pourquoi tu penses ça?
Donc là, j'ai vu un rapport, on va parler d'actualité, très récent de la part de RTE, donc qui gère les réseaux électriques français, qui a indiqué que il ne faut pas fermer de centrales nucléaires d'ici 2026 pour ne pas fragiliser le réseau électrique. Si on ferme des réacteurs nucléaires d'ici 2026, ça va poser des problèmes pour la stabilité du réseau. Pourquoi ?
Qu'est-ce que tu entends par stabilité du réseau ?
Donc aujourd'hui, un réseau électrique, il faut que la consommation soit égale à la production en tout lieu et en toute heure. Si tu veux que ton réseau électrique soit stable, donc qu'il n'y ait pas de coupure de courant ou de surproduction, donc il va poser des problèmes pour les outils électriques, il faut qu'aujourd'hui, tu consommes exactement ce que tu produis. OK ?
Ouais.
Donc, comment on produit l'électricité ? Donc, comme je vous disais, à base de renouvelables, nucléaires, etc. Si tu fermes tes centrales nucléaires, mais que derrière, tu n'as pas des moyens de production suffisants pendant les heures de pointe, donc c'est souvent l'hiver à 18h.
Ce qui s'est passé un peu cet hiver, d'ailleurs.
Ce qui s'est passé cet hiver, si vous avez suivi cet hiver, il y a eu un moment où on a demandé à certaines entreprises ou aux Français de réduire leur consommation électrique. Parce qu'il y avait des doutes de la part d'RTE sur leur capacité à répondre aux besoins d'électricité des Français.
RTE, tu as rappelé
RTE, excuse-moi, c'est le réseau transport et électricité, donc c'est ceux qui s'occupent du réseau électrique français.
D'accord.
Donc ils ont dû même réduire la puissance donnée à certaines industries françaises. Donc oui, il y a eu un petit risque, donc ils ont préféré le signaler.
Donc pour revenir sur la question vraiment politique...
Donc sur la question politique, Europe Écologie Verts aujourd'hui veut réduire du coup notre part de nucléaire. C'est un choix comme un autre, mais actuellement, on n'a pas les capacités techniques à cause de l'intermittence des éoliennes et des panneaux solaires. Donc les éoliennes, il y a des semaines, elles produisent très peu, il y a des semaines, elles vont produire beaucoup.
Et cet hiver, elles ont d'ailleurs beaucoup été gelées
Non, pas en France.
Je me trompe pas.
Et pour le solaire, le problème, c'est que ça produit que quand il y a du soleil. Donc, globalement, il y a un pic à midi et ça fait une très belle courbe. Et l'hiver, globalement, il n'y a pas grand-chose. Et comme on ne sait pas stocker l'électricité, ça pose problème. C'est un mode de production. Donc, derrière, tu dois avoir soit des centrales thermiques, donc gaz et charbon, soit des centrales nucléaires pour assurer la production quand il n'y a pas d'éoliennes et de panneaux solaires qui fonctionnent.
On en avait parlé un peu en off, et effectivement, on est d'accord sur le fait que Europe Écologie Les Verts aujourd'hui peut-être prend pas les meilleures décisions environnementales, même par rapport aux autres partis. Mais moi, je disais qu'il y avait plus une problématique sociale qui était de sensibiliser les gens et de dire aujourd'hui l'environnement et le réchauffement climatique, c'est quelque chose. Enfin, surtout, pardon, le réchauffement climatique, c'est quelque chose de très grave et à prendre en compte. Et on doit sensibiliser et on doit prendre des décisions. Et donc, finalement, voter pour Europe Écologie Les Verts, c'est pas forcément prendre des décisions de suite, mais c'est représenter une marche en avant.
Oui, tu me parlais de ça en mode oui, mais c'est un signe, c'est un symbole de mettre des verts au pouvoir, etc. Mais moi, je vais te répondre, si tu mets des gens au pouvoir qui sont quelque part, qui n'ont pas compris le problème, et qui restent focalisés sur ce débat nucléaire et ces énergies renouvelables, on ne va pas s'en sortir.
D'accord.
On ne va pas s'en sortir, et actuellement, depuis quelques années, au ministère de l'écologie, tu as du coup Barbara Pompili, François de Rugy, donc des gens qui sont très proches d'Europe Écologie Les Verts. Et ces gens-là, ils font peut-être des actions pour le climat, mais ils parlent quand même énormément de nucléaire et d'énergie renouvelable. Ça occupe 90% de l'espace médiatique.
Oui, mais c'est avant tout des gens qui sont concernés par... Moi, je ne te parle pas des décisions qu'ils prennent réellement, mais finalement, de le fait... Oui, ils sont concernés, tu vois. Et en fait, si on met des gens comme ça au pouvoir, leurs successeurs, et en fait, tu rends un parti plus puissant, et leurs successeurs pourront faire pourront prendre des décisions différentes, comme le parti, les Républicains prennent des décisions différentes, comme le Parti Socialiste prend des décisions différentes en fonction des personnes, mais qui ils sont concernés par les mêmes choses, tu vois ce que je veux dire?
Oui, je le vois, mais donc je pense que pour 2022, tu vas avoir. C'est un sujet qui va être incontournable comparé à 2017. Je pense vraiment que là, les politiques vont devoir commencer à en parler. Marine Le Pen et Mélenchon ont commencé à en parler. Bon, Mélenchon, il se positionne plus. Bah, de toute façon, globalement, ce qui va se passer, c'est qu'à gauche, ils vont être contre le nucléaire. Donc à gauche, ça va être Mélenchon. Il a déjà montré ses positions anti-nucléaire. Il va y avoir Yannick Jadot, donc PS, Europe Écologie Les Verts. C'est très fort de chance qu'ils, eux, vont être anti-nucléaire. Et à droite, bon, ça va être Marine Le Pen qui s'est déjà montré pour nucléaire très récemment. Et
on avait une discussion qui le fait que ça dérange en fait qu'au final ce soit ça dérange mais en fait ça devient juste être pour le nucléaire aujourd'hui c'est juste un symbole d'opposition et plus réellement une
ouais,
opinion
ouais je pense que t'as beaucoup de ça c'est que en gros t'aurais les écolos pro nucléaire mais okay. Eux, ils sont un peu bizarres. Ils sont pas vraiment écolos et t'as les vrais écolos, Europe Écologie Les Verts,
qui sont, vrais écolos.
qui sont vraiment du coup.
Attends, les faux écolos, c'est qui, Rodi?
Qui sont vraiment 100% renouvelables, tout ce que tu veux. Et bon, là, c'est un autre débat, les modèles 100% renouvelables. Mais donc, après, ouais, bah, non, mais t'as raison, peut-être que c'est un symbole, mais si tu fais les choses mal et que tu perds du temps sur des sujets qui n'ont aucun rapport avec le climat, tu perds des moyens, tu perds de l'argent, tu perds du temps. Tu perds des ingénieurs que tu n'as pas formés au bon endroit, et donc on va pas résoudre ces problèmes.
Malheureusement, si tu ne prends pas ce temps-là pour avoir une réelle évolution sociale, comment tu veux qu'on avance, quoi ? C'est ça
Donc c'est pour ça que les autres partis vont se préoccuper de ces questions-là, et vont les prendre en main, et on va voir ce qu'ils déclarent. Aujourd'hui, on est encore trop tôt pour voir ça va être quoi le programme de ces personnes pour 2022.
D'accord.
Petite question de ma part, qui concerne ce sujet, est-ce que tu penses pas au fond que il faut voir plus loin et peut-être que sortir du nucléaire c'est peut-être la solution à long terme et peut-être qu'il faut en passer par de l'approvisionnement en énergie fossile le temps de trouver des solutions qui permettent de sortir du nucléaire, des solutions durables puisque comme tu nous l'as dit, le nucléaire, enfin l'éolien, le solaire ne sont pas en capacité de répondre à nos besoins. Pourquoi ne pas augmenter nos approvisionnements de gaz algérien comme les Allemands augmentent leurs approvisionnements de gaz russe pour la transition? Peut-être qu'il faut en passer par là, c'est un mal pour un bien pour sortir du nucléaire et peut-être adopter une solution durable.
Comme je te l'ai dit, si tu mets aujourd'hui du gaz à la place de centrale nucléaire, tu multiplies d'un facteur 40 tes émissions. Aujourd'hui, ce qui s'est passé avec la fermeture de Fessenheim, c'est qu'on estime qu'il y a eu entre 5 et 10 millions de tonnes de CO2 en plus dans l'atmosphère. Pour un ordre de grandeur, aujourd'hui, la France, c'est 450 millions de tonnes de CO2 par an, les émissions du territoire. Donc, c'est un choix. Tu peux décider d'avoir trop peur du nucléaire et de vouloir fermer. C'est ce qu'ont fait les Belges. Les Belges ont décidé de ne pas prolonger la durée de vie des centrales. Elles vont fermer quand elles auront atteint 40 ans, donc dans les 5 prochaines années. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont construire des centrales à gaz parce que leur production éolienne ne va pas suffire. Donc c'est un choix de leur part. Et au pouvoir, et qu'est-ce qui se passe ? Donc c'est une sorte en gros d'Europe Écologie Les Verts qui sont au pouvoir en Belgique. C'est le même parti. Donc c'est un choix. C'est un choix politique. Donc à vous après d'en juger. Aujourd'hui, on n'est pas capable d'assurer un approvisionnement électrique stable sans avoir derrière des moyens de production du coup qui peuvent produire quand on veut. Donc c'est-à-dire les centrales thermiques et nucléaires. Donc si tu fermes tes centrales nucléaires et tu vas être obligé derrière de mettre des centrales à gaz.
Moi, j'ai une petite question sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure et sur lequel je voulais revenir, on n'a pas eu le temps. Enfin, peut-être on est passé sur autre chose. Qu'est-ce que toi, en fait, t'as un grand truc, donc nous, on est assez sensibilisés à ça en tant qu'ingénieurs, et en fait, les gens qui font des grandes écoles, des grandes études sont assez sensibilisés à ça. C'est ce modèle de, oui, on veut faire un capitalisme vert, on veut mettre en place un capitalisme vert, voilà. Une croissance verte et des modèles 100% énergie renouvelable. Donc, tu vois, est-ce que tu penses que c'est réellement possible ? Est-ce que tu penses que c'est juste du greenwashing ? Qu'est-ce que tu en penses ?
Bah, la croissance verte, bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, globalement, tu as un modèle où on ne rejette pas de CO2, on va réussir à produire plus de richesses. Bon, c'est une question que je pense qu'on n'a pas le temps de traiter là, mais ça me paraît difficilement...
La question, elle est vite répondue.
Je pense que ça me paraît être difficilement possible. Et oui, c'est plus un... Aujourd'hui, bon, t'as ce grand débat décroissantiste. Ouais, ça fait peur, bon, d'accord. Bon, ce problème de mesurer la richesse avec le PIB, il y a plein de problèmes derrière ça. Je pense que bon, on n'a pas le temps. Ça serait...
ça une on fera une autre émission sur l'économie.
Mais oui, c'est une question intéressante. Mais je pense que derrière ça, ouais, tu peux parler des investissements. Je pense que là où moi je suis inquiet, c'est qui m'inquiète, c'est où est-ce qu'aujourd'hui on investit notre argent. Donc toi tu payes tes impôts, tu payes des taxes sur le pétrole, tu payes des taxes sur l'électricité. Où est-ce que va cet argent? Faut quand même que quand tu payes ta taxe carbone, faut que ça serve à décarboner notre pays. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi autour de cette table. Donc moi il y a ce grosse problématique, c'est où va l'argent des taxes. Donc aujourd'hui t'es taxé sur l'électricité, t'es taxé tes impôts normaux et t'es taxé sur le pétrole. Moi ce qui m'inquiète aujourd'hui c'est qu'on investit du coup une grande partie de cet argent là pour mettre des éoliennes et des panneaux solaires. Donc t'as aujourd'hui ce qu'on appelle les obligations d'achat d'électricité qui contraignent UDF à acheter l'électricité des panneaux solaires et des éoliennes plus chères que sur l'électricité de marché. Et donc nous ça crée un déficit pour EDF et on est obligé du coup avec nos impôts de rembourser EDF. Et donc ça représente quoi? C'est actuellement autour de 5 milliards d'euros par an. Et on s'est engagé actuellement à payer 100 milliards d'euros à EDF d'ici 2040. Donc ça, c'est tu vois, un coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met des panneaux solaires et des éoliennes, ça coûte très cher à l'État, ça nous coûte très cher.
Aux contribuables.
Ouais. Aux contribuables, pour au final, pas décarboner notre économie. À titre de comparaison, donc si tu prends les énergies thermiques, donc que ce soit pompe à chaleur, géothermie, donc des choses qui décarbonent vraiment notre pays, puisque ça permet de remplacer du gaz par des énergies renouvelables, aujourd'hui, c'est 500 millions. Donc c'est pour ça que quand je te dis que le débat,
500 millions de quoi ?
500 millions d'euros d'investissement environ par an et par personne. Donc c'est un rapport de la Cour d'État 2018, des Cours des comptes 2018.
Par personne ?
Non, tu dis quoi ? Par personne.
500
millions par an environ. Tu vois. Donc c'est pour ça que quand je te dis que le débat s'est centralisé autour de la question nucléaire et énergie renouvelable, les conséquences politiques...
Ouais, en fait, c'est maintenant juste une espèce de...
On investit... Alors,
le mot est un peu dangereux, mais une espèce de populisme, c'est-à-dire, nous, on est pro-nucléaire, on représente l'opposition, et les pro-nucléaires représentent l'opposition, et les contre-nucléaires représentent la bien-pensance, en fait. Il y a un vrai clivage avec ça, quoi.
Ouais, tu peux le voir comme ça, c'est envie, mais ouais.
Mais à quand la taxe pour le démantèlement et l'entretien des centrales nucléaires? Puisque je pense qu'aujourd'hui, en France, nous ne prenons pas en compte ce coût.
Ouais.
Dans l'électricité. Donc,
autre problème, comme je dis, le sujet du coût de l'électricité est très complexe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, c'est...
Parce qu'on en parle...
EDF est très pénalisé parce que l'électricité n'est pas assez chère. Et donc, pour ses futurs investissements, là, ouais, ça complique les choses. Mais là, c'est encore un autre débat très compliqué.
Mais ça reste quand même central aussi sur la question du nucléaire. Et je pense qu'il fallait évoquer le coût de l'électricité en France.
Ouais, ça, il faut évoquer ce coût. Mais donc, comme je te le dis, toutes ces conséquences politiques et cette centralisation du débat sur le nucléaire et le renouvelable, ça a un impact derrière pour les citoyens, parce que tes impôts aujourd'hui vont majoritairement pour aider la production d'éoliennes et de panneaux solaires, qui ne décarbonent pas notre pays.
Il nous reste un tout petit peu de temps. Moi, je voulais te parler d'une chose qui intéresse et qui intéresse plutôt peut-être les gens de l'UTC. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas l'UTC, donc l'Université Technologique de Compiègne, c'est une école d'ingénieurs où on choisit notre branche d'activité au bout de la troisième année. Donc il y a l'informatique, la mécanique, la biologie, ce genre de choses. Et il y a donc la branche de Vincent, le génie des procédés. Donc toi, tu fais partie donc, de cette branche de génie des procédés.
Ouais.
On imagine donc qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine.
Ouais.
Et dans quel secteur industriel, toi, tu souhaites te diriger pour avoir un réel impact finalement dans le...
Au final, il y en a plusieurs. Mais comme je t'ai dit, pour moi, les pompes à chaleur, ça me paraît vraiment quelque chose d'intéressant. Donc les pompes à chaleur, c'est quoi? Quand il fait froid dehors, tu as quand même de l'énergie dehors, parce que tes molécules d'air, elles bougent, etc. Donc tu as de l'énergie. Donc le principe d'une pompe à chaleur, c'est de récupérer cette énergie qui est dehors, même si tu as des températures négatives, et de le refiler à l'intérieur. Et donc aujourd'hui, avec les pompes à chaleur, tu es capable, avec une unité d'électricité ingérée dans ton système, de récupérer 3 unités de chaleur. Donc tu divises par 3 ta consommation d'électricité, et tu es capable de produire beaucoup de chaleur pour chauffer ta maison. Donc ça, pour moi, ça me paraît être une solution très intéressante pour remplacer les chaudières à gaz et les chaudières au fioul.
D'accord.
Donc, sachant que les émissions liées à ces chaudières-là, c'est 20% des émissions en France, ça permettrait de réduire beaucoup nos émissions de gaz à effet de serre.
Je te demande d'un point de vue plus personnel, alors pourquoi toi, pourquoi ne pas te diriger finalement vers le nucléaire, qui sera la solution que tout le monde verrait.
T'as l'autre choix, et t'as aussi plein d'autres choses qu'on traite dans notre filière d'ingénierie procédée, donc par exemple décarboner la production d'hydrogène. Donc l'hydrogène en France, on en produit une tonne, ça représente à peu près 10 millions de tonnes de CO2 donc, émis en France. Donc ça, c'est notre problématique. Donc là, bon, bah, faut faire avec de l'électrolyse, avec de l'électricité, on va produire de l'hydrogène. Il y a plein d'autres sujets qu'on travaille, bah, le stockage de l'électricité, les biocarburants, le biogaz, etc. C'était des sujets très intéressants. Et oui, on peut aussi travailler dans le nucléaire. Donc peut-être que je vais me diriger vers ça à la fin de mes études, parce que ça reste quand même un secteur intéressant.
D'accord. Donc finalement des thématiques très intéressantes. Eh bien, je vous remercie, chères auditrices, chers auditeurs, de votre écoute. Donc on a comme projet donc, de monter cette émission et les deux d'avant. Pour les mettre sur notre chaîne YouTube ou Spotify, nous n'avons pas encore décidé. On vous fera de la communication pour que vous puissiez retrouver donc une version plus courte des émissions et que vous puissiez les écouter tranquillement. On remercie Vincent d'être venu aujourd'hui. Vincent, tu peux nous rappeler
si j'ai dit des bêtises.
Le nom de ton compte Instagram ?
Ah ouais, Vincent.lemerde.
Vincent.lemerde sur Instagram. Vous pouvez le retrouver, très intéressant. Beaucoup de contenu, parfois difficile à comprendre, mais...
Non, arrête.
Vincent Le Maire l'a retrouvé également sur Twitter, LinkedIn.
Très actif sur LinkedIn. Merci beaucoup encore, Chloé, pour ta super chronique.
Avec plaisir.
Et merci, le beau gosse.
C'est un plaisir chaque semaine de participer à cette émission et à cette chronique. Merci Vincent pour tes opinions et tes faits scientifiques très intéressants. D'ailleurs, j'espère que tu nous mettras ton fichier source disponible avec le podcast de cette émission très bientôt. voilà. Et merci Chloé pour ce petit poème traitant de la bière.
Il a remercié tout le monde. Je l'ai déjà fait, il va le refaire.
Et merci au Ran de m'avoir remercié.
Merci à tous en tout cas.
Moi,
à remercier ma famille aussi.
Merci à
tous.
Bon, tu sors là.
Bonne continuation. Arrêtez, laisse-moi finir l'émission. À plus.